Mardi 21 mai 2019, benedicat vos in Deus pater et filius et spiritus sanctus, amen. J'étais en train de réciter l'Hélone et puis dis-je comme c'est très important. Hein. Ouais, des moments on s'arrête quand même parce que là on vient de penser à un truc. On a encore chanté, c'était pour rattraper ce qu'on n'avait pas chanté dimanche, le psaume 62, dans lequel il y a marqué, qui est quand même important, dans lequel il y a marqué, Ipsi vero in vanum quisierunt animam meam, itroibunt inferi. Ipsi vero in vanum quisierunt anima meam, introibunt in inferiora terre, tranentur in manus gladii, partes vulpium erunt. Alors ça, ce passage, il est cité littéralement sur le tableau du Jardin des Délices. Tout a fait à droite au milieu par rapport au haut et au bas. On a un soldat en armure qui est dévoré par des chiens fantastiques ou des loups fantastiques. En fait, ça représente des renards. Ça ressemble pas plus à des renards qu'à des loups ou à des chiens, mais c'est. Par contre, ça représente nettement des canidés. Donc, il s'agit bien des renards dont parle la Vulgate. Et juste au-dessus, il y a un autre soldat qui lui est nu et qui est transpercé par une armure. Qui est transpercé par un glaive. Donc, c'est bien ce qui se passe. Il y en a un qui est la proie des renards. La part des renards, exactement. Et l'autre qui est livré au glaive. Donc, citation littérale du psaume. Et je repensais, ce matin, je pensais à quelque chose d'hyper important. Je pense que j'avais déjà. Non, c'est pas sûr. Non, je pense que cette interprétation, je ne l'avais pas trouvée parce que je ne savais pas que cet objet qui est juste à côté, donc juste encore plus à droite, donc vraiment à fond à droite du tableau, à droite de ce personnage qui est dévoré par les renards et de ce personnage qui est transpercé par le glaive, il y a un objet. Moi, quand j'avais commencé à étudier le tableau, j'avais dit c'est une sorte de marmite, je ne sais pas trop quoi, d'un ustensile. Et en fait, il s'agit d'une lampe. Je ne savais pas du tout, parce que pour moi, une lampe, c'est ajouré pour faire passer la lumière, et ce n'est pas un objet complètement fermé. Eh bien si, c'est un objet complètement fermé, parce que, en fait, il y a juste une ouverture en haut, ou des fois des petits trous en haut pour laisser passer l'air, pour que la flamme à l'intérieur ne soit pas étouffée, et qu'on transporte fermé. On transporte la lampe fermée et une fois qu'on l'a posée là où on voulait l'amener, hop, on ouvre la porte et la lumière passe à travers la porte. Donc il s'agit d'une lampe. Je ne savais pas. J'ai appris ça très récemment. Ah oui, je crois que c'est en lisant Frankger. Hein. C'est en lisant Frankger, j'ai appris que c'était une lampe. Après, j'ai regardé sur Internet. Effectivement, j'ai trouvé des images de lampes qui sont tout à fait semblables à celle-ci. Alors, c'est une lampe dans laquelle il n'y a pas de lumière. Alors ce matin, je pensais à ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais parler, parce qu'après, je vais parler après. C'est pas tellement ça qui m'a incité à m'arrêter de chanter et à commencer l'enregistrement. Parce que là, je viens de faire une découverte. C'est il y a quelques jours, j'avais remarqué ça. Alors dans le panneau de l'enfer, on peut l'appeler le tableau de l'enfer, effectivement. Après, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est cet enfer. On pourra expliquer qu'est-ce que c'est cet enfer, mais c'est bien un enfer. Alors, du côté gauche, sous la cloche, sous la tête de cheval mort, on voit un moine en train de lire un livre. Et ça encore, Frankger en parlait, donc j'ai regardé le dessin de plus près. Et en regardant le dessin de plus près, alors il parlait aussi d'un bec d'une sorte de bec en spatule qui fait clac-clac, qui claque et qui signifie dit Fringuer, un discours creux et un caquètement qu'on parle pour ne rien dire. Et puis il parlait de la corne. Alors je ne sais plus l'interprétation qu'il donnait de la corne qui dépassait sur la tête du moine en train de lire. Bosch a caricaturé à l'extrême gauche du volet un moine mendiant en le dotant d'un long bec, ce qui réduit ses sermons à de vains et stupides caquetages. Devant ce bavard impénitent, un autre moine, le speculum confessionis en main, est en train de chevaucher un pauvre pécheur, c'est-à-dire de tourmenter son âme avec un zèle fanatique. Son front porteur d'une longue corne fait de lui un fils du démon. Et alors, en regardant ce moine de plus près, pour regarder le motif dont parlait Fringuer, j'ai vu quelque chose dont il ne parle pas. Je me suis approché de cet endroit et j'ai vu quelque chose dont il ne parle pas et qui est très significatif. J'avais pas trouvé la signification, justement. L'oiseau, d'ailleurs, on voit que le bec, un peu le bout de la tête et le bec, et on voit une main de cet oiseau, et cette main, avec l'index, désigne ce moine en train de lire. Alors, c'est très net, hein, la main, l'index, d'ailleurs l'index, ça veut dire ce qui désigne, hein, ce qui indique, c'est dit, alors il montre avec son doigt, regardez cet objet. Alors, dans le tableau, c'est le peintre qui fait ça, hein. Il nous dit, regardez bien cet objet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important là. Il nous dit, il y a quelque chose d'important. Oui, il y a quelque chose d'important. Et quoi? Alors, c'est en lisant Fringuer, j'ai vu qu'il y avait effectivement une correspondance entre le moine qui lit ce livre dans le. En fait, ce moine qui lit dans le panneau de l'enfer, c'est le même que le canard qui lit dans la mare du panneau du paradis originel. C'est le même. On retrouve en fait les deux personnages au même endroit. Ça c'est en lisant Fringuer que j'ai appris ça. Et ce matin, je me suis dit, tiens, cette mare qui est au fond du paradis, d'ailleurs le moine, il est peu loin de la mare, ou presque, il se trouve, il est même dessus, de la mare gelée de l'enfer. Donc on a un moine en train de lire sur la moine gelée de l'enfer, et on a un moine en train de lire dans la mare, pas encore gelée, on pourrait dire, en tout cas pas gelée, du paradis originel. Et ce matin, je me suis dit, tiens, peut-être que cette mare, si on plonge dans cette mare, on passe à travers un passage souterrain et on arrive en enfer. Cette mare, j'ai pensé ça ce matin, cette mare, c'est l'entrée de l'enfer. Si on plonge dans cette mare, on suit un passage souterrain, un passage secret, et on arrive dans le panneau de l'enfer. Je dis, mais oui, c'est ça. Parce que ça résout une difficulté vraiment de ce tableau, qui est de savoir connaître le sens de lecture. Le sens de lecture, parce que dans des panneaux comme, dans des tableaux comme, habituellement, le sens de lecture dans les triptyques qui parlent des fins dernières, c'est-à-dire de la mort, du jugement, du paradis et de l'enfer, dans les triptyques qui parlent de ça, eh bien, en général, on a toujours l'origine, le paradis originel, le péché, la vie présente et l'enfer. Ou le jugement et l'enfer. Enfin, en général, c'est assez pessimiste, mais c'est assez facile à lire. On a l'origine, le péché originel, le péché qui s'accroît dans le monde. Bon, ça, c'est quelque chose de bien connu, de très très net, expliqué dans la Bible. C'est l'histoire de Moïse, pardon, l'histoire de Noé. Voilà, enfin, les péchés se multiplient, se multiplient, se multiplient dans le monde. Après, il y a Noé qui est sauvé, et après, l'humanité repart presque au commencement. Et puis après, le péché se multiplie encore. Et saint Paul dit, effectivement, le péché s'est multiplié, le péché s'est multiplié. Le péché se multiplie, et finalement, tous les pécheurs qui se sont multipliés dans le monde, ils finissent par arriver en enfer. Donc on a une progression qui s'explique très facilement de gauche à droite dans ces triptyques-là, où l'origine, la faute, la multiplication du péché, le jugement, parce qu'en général, dans le panneau central, on voit Jésus en position de juge, et à la fin, l'enfer. Et dans ces panneaux des fins dernières, le paradis, l'enfer en général est très grand, il occupe un panneau à lui tout seul, ou même deux panneaux, c'est-à-dire le panneau de droite et le panneau central, et le paradis occupe une toute petite place dans le ciel à côté de Jésus-Christ en train de juger les hommes. C'est-à-dire, la masse des hommes suit un mouvement qui va de gauche à droite, du paradis originel en passant par le monde, et ils vont tous dans le panneau de droite qui est l'enfer, et il y en a quelques-uns qui, en passant dans la vie du monde, sont arrachés à la vie du monde et emportés dans le ciel. Voilà. Donc on a une lecture, un sens de lecture très facile, et on a une explication très facile pour savoir de comment est-ce qu'on passe d'un panneau à l'autre. Tout simplement, c'est une progression temporelle. Hein, d'abord on est à gauche, et après on est à droite. À gauche, au milieu, à droite. Et il y en a quelques-uns qui sont à gauche, au milieu et en haut. Voilà, on a deux directions, c'est très simple. Ici, on ne sait pas. Ici, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Et bien finalement, la solution, je viens de la trouver aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe d'un panneau à l'autre? Dans les autres panneaux, c'est très simple. On est dans un panneau, on passe juste, on va à côté. On passe par le panneau d'à côté. Et si on est dans le panneau central et qu'on va au paradis, hop, on remonte en haut. Donc on a des chemins qui sont très simples, très faciles. Et ici, c'est compliqué. Et la solution, elle est donnée par des passages secrets, par des passages souterrains. Et voilà. Dans les autres tableaux, c'est facile. Il n'y a pas besoin de passer de souterrain. On passe d'un tableau à l'autre, pof, 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 ou alors on va dans le ciel. C'est facile à expliquer. Là, c'est compliqué. On se demande comment ça peut marcher. C'est pas logique. Et en fait, la logique s'explique qu'il y a des passages qu'on ne voit pas. Dans les autres tableaux, les passages, on les voit. Là, on ne voit pas. Mais c'est parce qu'ils sont souterrains, tout simplement. Effectivement, la mare, c'est l'entrée de l'enfer. Parce qu'on retrouve le même personnage. Et c'est ce que nous dit ce personnage au bec en spatule. C'est pas un bec de canard. Hein, c'est pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est comme animal exactement. Il nous dit, regardez bien, ce moine qui est là, c'est le même que celui que vous voyez dans la mare. Donc il nous dit, eh bien, si c'est le même, c'est que ce même moine, hop, il est passé. Ce même moine qui est dans la mare, il se retrouve ici. Et comment il a fait pour arriver ici? Il n'est pas atterri. Eh bien, en plongeant dans la mare, certainement. En passage à un souterrain, il est arrivé là. Donc maintenant, on sait comment est-ce qu'on passe du tableau de gauche au tableau de droite par un passage souterrain. Voilà ce que nous dit ce bonhomme. Alors dire, c'est évident, c'est ça la véritable explication. Avec ce que je viens de dire, c'est obligatoire que ce soit la vraie interprétation. On n'a pas besoin d'ajouter des preuves. C'est évident. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a une autre de preuve. Il y a une autre preuve. C'est que dans le panneau central, on retrouve le même motif. Motif, c'est un dessin particulier qui signifiait un dessin particulier de l'index, qui montre. Et il montre où? Il montre à la sortie d'une grotte. Cet index dans le paradis central, il est placé à la sortie d'une grotte, c'est-à-dire à la sortie d'un passage souterrain. Eh oui. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. On n'avait pas besoin d'avoir une preuve supplémentaire, mais on en a une autre. Alors cet autre doigt, c'est le doigt d'un personnage qu'on voit à peine. Et alors là, il paraît que Franguer en parle beaucoup, mais pour l'instant, j'en suis au milieu de son livre et donc je n'ai pas vu encore. C'est très facile à lire, enfin c'est assez facile à lire Franguer finalement. Donc bon, ça va. Alors c'est un personnage dont on voit à peine le visage. Et il a la peau un peu basanée, c'est un métis, apparemment. Hein. Ce qui est très rare, parce que dans le Jardin des Lys, on ne voit pas de métis. Il y a des noirs et des blancs. D'ailleurs, je remarque que les noirs, ils sont tous au paradis. Il n'y en a pas un seul en enfer. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. J'en sais rien. Enfin, comme ils voulaient prendre la défense des noirs, il les a tous mis au paradis. Bosh. Voilà. Donc là, il y a que des noirs et des blancs. Pas beaucoup de noirs, beaucoup de blancs, quelques noirs. Mais il n'y a qu'un seul métis. Si c'est bien ça. Hein. Mais je pense que c'est ça. C'est un métis. Et alors, c'est ce métis qui désigne Adam, qui est devant sa paume, l'air pensif, avec quelque chose sur la bouche. Et on a trouvé l'explication un jour. On cherchait qu'est-ce que c'est que ce motif sur la bouche. On a trouvé l'explication un jour dans la cathédrale de Fréjus. Le motif sur la bouche, ça veut dire j'ai posé une garde à mes lèvres pour éviter de chercher des excuses à mes péchés. Ça signifie, Adam se demande, réfléchit, se demande, mais qu'est-ce qu'il raconte au sujet de cette paume? Mais il y pense lui-même, il dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter au sujet de ce péché originel? Je ne comprends pas ce qu'il dit sur moi, mais il se tait. Il ne cherche pas d'excuses au péché dont on l'accuse. Il ne cherche pas d'excuses à ses péchés, au péché dont on l'accuse. Parce qu'il dit, c'est peut-être vrai que j'ai péché. Parce que dans le psaume, je ne cherche pas d'excuses à mes péchés véritables. Là, il se demande bien ce qu'il a fait, mais il ne cherche pas à se défendre. Il reste en silence. Il ne se justifie pas lui-même. Finalement, le libre-esprit en général, et cette œuvre du libre-esprit en particulier, vient prendre la défense, cette défense d'Adam qui, lui, ne se défend pas lui-même. Quand on refuse de se défendre soi-même, c'est toujours Dieu qui vient prendre notre défense. Donc, effectivement, comment passe-t-on d'un panneau à l'autre dans le Jardin des Délices par des passages souterrains? Alors, on passe du paradis originel à l'enfer par la mare qui se trouve en bas. On passe de la mare centrale du paradis originel à la mare d'en bas du paradis éternel. Bon, là, à tout simplement pas par un passage souterrain. On passe directement sans passage souterrain. Et alors ça, j'avais déjà remarqué qu'on pouvait passer du paradis originel au paradis éternel, qu'on y passait au niveau où il y a tous ces oiseaux, ces hommes qui chevauchent des oiseaux et qui arrivent dans la mare et qui sont, alors qui sont pas des métis parce qu'ils sont pas moitié blanc, moitié marron, ils sont gris. Ils sont gris parce qu'ils sont maladifs. Et ils arrivent dans le paradis originel, ils sont en train d'être guéris. Ils commencent par se guérir pour pouvoir participer à la grande fête du paradis éternel. C'est une image du purgatoire. Mais peut-être aussi des disciples qui entrent dans le libre-esprit, qui entrent tout juste dans le libre-esprit. Alors maintenant, il faut se dire, cette sortie de la grotte, c'est certainement aussi un passage souterrain. Et alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un passage souterrain, puisqu'on peut passer du paradis originel au paradis éternel sans passer par un passage souterrain? Alors, et on va dire, où est l'entrée de ce passage souterrain? On va trouver vite, hein. Il suffit de poser de là, on a bien compris le système. Donc, l'entrée du passage souterrain qui me conduit en enfer, c'est la mare d'en bas du paradis originel. On passe du paradis originel au paradis éternel sans passer par un passage souterrain. Et là, on découvre que dans le passage, dans le paradis origine éternel, il y a un passage souterrain. Donc, il y a un autre accès, il y a deux accès dans le paradis éternel. On n'en voit qu'un seul pour l'enfer, il y en a deux pour le paradis éternel. Alors, où est l'entrée du paradis, du passage souterrain qui mène au paradis éternel? Alors, là, le souterrain qui passe du paradis originel à l'enfer, ben, l'entrée c'est dans une mare et la sortie se trouve devant une mare. Là, l'entrée, la sortie qui mène du passage qui mène au paradis éternel est une grotte. Donc, il faudrait chercher une grotte dans le paradis éternel comme entrée. Et cette grotte, elle est tout simplement au pied de l'arbre de la connaissance, derrière la tête de l'homme rocher. Et en fait, c'est l'oreille de l'homme rocher. L'entrée du passage secret qui mène du paradis originel au paradis éternel, c'est l'oreille de l'homme rocher. C'est dommage, il y a un bruit de tondeuse, ça va peut-être s'entendre. Hein. Toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça, mais. Eh bien, ce passage secret, c'est le culte adamique. Parce qu'on voit des animaux qui sortent de la mare, du paradis, de la mare centrale du paradis originel, et ces animaux, ils forment une sorte de procession, et cette procession, elle se continue dans le paradis éternel, et en fait, il y a les hommes qui passent par la surface, voilà, ils sortent de la mare, et puis ils continuent leur chemin vers le paradis éternel en surface. Et il y a ceux qui utilisent un passage secret. Et ceux qui utilisent ce passage secret, ce sont les membres du libre-esprit. Et ceux qui n'utilisent pas le passage secret qui monte du libre-esprit, et ceux qui ne marchent pas sur la terre ferme, ils s'embourbent dans une mare fangeuse, parce que la mare centrale, elle est toute bleue, elle est propre, elle est pure, alors que celle du fond, elle est boueuse, fangeuse. Donc ceux qui ne passent pas par le passage souterrain qui mène direct au paradis, et qui ne passent pas par la voie terrestre qui mène au paradis, il y a ceux qui sont enfoncés dans les eaux boueuses qui mènent à l'enfer. Voilà. Voilà, on a trouvé donc aujourd'hui la circulation, les passages qui permettent de passer d'un tableau à l'autre. On va dire, mais comment est-ce qu'on fait pour passer de gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite, enfin de la. Et de plutôt de panneau de droite au panneau de gauche, on ne comprenait pas parce qu'on ne voyait pas le passage et on ne le voit pas le passage parce qu'il est tout simplement il est souterrain. C'est la raison pour laquelle on ne le voyait pas, c'est tout simplement pour les sous, parce qu'il est souterrain. Voilà. Et non plus, j'avais pas même pas pensé à ça, on ne voit pas le passage qui mène du paradis originel au paradis éternel sans passer par le purgatoire. J'avais pas remarqué ça. On me dit, tiens, le chemin qui passe sans purgatoire, où est-ce qu'il est? Parce que le chemin qui passe par le purgatoire, il est très visible. Il est même, il prend une place assez conséquente. Ce grand triangle-là, ce triangle qui représente à la fois la vie terrestre et le purgatoire, il occupe une très grande place à l'intérieur du panneau central. On voit le combat de Jacob, on voit les trois manières de penser la sexualité, soit la sexualité solitaire, soit la sexualité en couple, ou alors l'abstinence et la sexualité vécue uniquement par la pensée, dans la réflexion. Trois moyens, la sexualité solitaire, la sexualité en couple, ou la sexualité vécue par la pensée seulement. On a les personnages, le combat de Jacob, les personnages tout ça, c'est l'histoire de la vie terrestre. Et puis on a les personnages qui arrivent gris, maladifs, et qui sont guéris en mangeant de la mûre. Ça, c'est le purgatoire. Donc tout ça, c'est l'entrée ordinaire vers le paradis éternel. Et il y a une entrée extraordinaire qui est le passage secret. On entre dans l'oreille de l'homme, du rocher homme, et on sort là où on voit Adam dans le panneau central, tout à fait en bas à droite, qui est désigné par un index. Donc cet index dénise les passages souterrains. Alors, quel est le passage souterrain secret qui permet d'accéder du paradis originel au paradis éternel sans passer ni par le purgatoire, ni par les étapes, ni par les états, ni par la sexualité ordinaire dans ce bas monde, c'est-à-dire la sexualité solitaire, la sexualité en couple et la sexualité dans la pensée. C'est la sexualité tout simplement de groupe. Comment est-ce qu'on peut entrer tout de suite, directement, dans la vie éternelle sans passer par les sexualités intermédiaires, en pratiquant dès aujourd'hui la sexualité de l'éternité, qui est la sexualité de groupe? Tout simplement en entendant l'appel à la jouissance sans limite. Bon, il y a toujours des limites tant qu'on est sur la terre, parce que, comme dit saint Augustin, à propos du chant, et pas à propos de la baise, mais lui qui est un gros baiseur, quand il parle de quelque chose, il doit toujours parler en référence avec ses souvenirs sexuels, et dire « Oh, c'est merveilleux de chanter, et de chanter Alléluia, 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 mais il y a bien un moment où on est obligé de s'arrêter. Dans le paradis, on pourra continuer sans cesse, mais sur la terre, aussi longtemps qu'on est sur la terre, il y a un moment où on prend un plaisir immense à chanter à lui, mais il y a un moment où on est obligé de s'arrêter, dit-il, lui qui est un gros baiseur et qui en connaît un rayon là-dessus. C'est qu'il devait se souvenir qu'il y a un moment, effectivement, on est obligé de s'arrêter. Donc il y a toujours des limites sur la terre, évidemment. Les corps des saints, une fois élevés à l'état des corps célestes et angéliques, seront tellement pénétrés et animés de cette vie immortelle que ni fatigue ni besoin ne les détourneront ni de cette contemplation bienheureuse, ni de ces louanges données à la vérité. La vérité sera ainsi leur nourriture, et le repos dont ils jouiront fera qu'ils seront comme assis. Mais quand on dit aujourd'hui sur la terre une sexualité sans limite, c'est-à-dire sans les limites que l'on va s'imposer à soi-même, sans les restrictions qu'on va s'imposer à soi-même, sans les interdits qu'on va s'imposer à soi-même et qui ne sont pas matériellement obligatoires. Quand on est fatigué, on est obligé de s'arrêter. Quand on n'a personne, on est obligé de s'arrêter. S'il y a une autre raison qui fait qu'on est obligé de s'arrêter, on s'arrête. Mais il y a des gens qui s'arrêtent en disant « Ah non, là ça suffit, non. Ah ça non. Je suis marié, je n'ai pas le droit de baiser une autre femme. » Ou « On doit rester que enfermé en soi. » Ou alors « j'ai été consacré religieux, moine, prêtre, monial. Ah, je n'ai pas le droit de toucher un kikette ou à la foufoune. Non, non, moi, pour moi, c'est interdit. » Ben non, c'est... Ça, c'est les restrictions qu'on s'impose à soi-même, alors que matériellement, elles pourraient ne pas... Alors qu'il n'y a pas de restrictions matérielles. Voilà. Et ce chemin, c'est celui qui conduit directement au paradis. Voilà. J'ai entendu encore récemment, ça me gêne un petit peu, mais tant pis. Mais moi, j'ai déjà un compagnon, alors je peux pas. Non, ça m'intéresse plus. Je peux pas, j'ai déjà un compagnon. Ben, écoute, si tu veux pas aller au paradis éternel tout de suite, tu passeras, soit tu iras direct en enfer, soit tu iras en enfer, soit tu iras au purgatoire. C'est à toi de voir. C'est toi qui t'impose cette limite. Ah, mais j'ai déjà un mari. Bon, ben, tu as déjà un mari. Tu as déjà un mari, tu passeras par le passage terrestre si jamais tu as le bonheur d'aller au paradis, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je te proposais évidemment le passage souterrain. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit ça, et je me souviens que, évidemment, quand on se trouve devant une œuvre comme celle-ci, qui est une œuvre immense, j'ai récemment, il y a quelques semaines, j'ai fait un commentaire vraiment magistral, Les Noces de Cana. Les Noces de Cana, le commentaire, on l'a écrit en une semaine, le commentaire, il fait, je ne sais pas, 30 pages ou quelque chose comme ça. Franchement, j'ai l'impression qu'on a presque tout dit. C'est une très grande œuvre, c'est une œuvre splendide, c'est le message est très important, mais il est quand même assez simple. Alors que quand on se trouve devant le Jardin d'Élysée, alors là, c'est d'abord la surface, évidemment, c'est pas la même, le nombre de personnages, c'est pas le même, mais vraiment, c'est une œuvre qui est gigantesque. Alors ça, là, pour la commenter, il faudrait. Peut-être l'éternité, en fait. Je pense c'est vraiment une œuvre. Les Noces de Cana, c'est excellent, mais le Jardin de Bosch, c'est carrément céleste, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'il faut l'éternité pour faire le commentaire. Alors, quand on se retrouve devant un tableau comme Les Noces de Cana, à la limite, c'est pas tellement important de commencer par un bout ou par un autre, parce que de toute façon, on va arriver à faire le tour. Alors, si on prend un. On sait que si on commence par quelque chose, de toute façon, on va parler de tout, et dans un temps assez restreint. Donc, c'est pas tellement important de savoir par quoi on va commencer. Quand on se retrouve devant un tableau qui est infini, où on peut dire une infinité de choses, on a un problème. On dit, ben alors, par quoi je vais commencer? Parce que comme de toute façon, je ne vais pas pouvoir tout dire, il va falloir que je choisisse. Et par quoi je vais commencer? Je ne vais pas pouvoir faire le tour. Donc il va bien falloir choisir ce dont je vais parler. Et finalement, parmi les choses dont j'ai parlé, comment je vais commencer? Eh bien, aujourd'hui, j'ai trouvé le démarrage du commentaire de Jérôme Hausse. C'est les circulations qui existent entre les panneaux. Bon, je n'ai pas parlé du panneau fermé. Parce que bon, il n'y a rien de nouveau. C'est assez simple. Il montre tout simplement la création avant. Donc, on passe de la création au paradis originel de manière directe. Il n'y a aucune complication. Mais les complications, elles sont à l'intérieur du panneau ouvert. Donc, voilà. Je pense que c'est par ça qu'il faut commencer quand on fait le commentaire du Jardin des Délices. Oui. Et alors, maintenant, je vous ai dit que tout à l'heure, je vous ai parlé de la lampe. Et je dis, moi je ne vais pas vous en parler maintenant, parce que franchement le plus important, et comme je dis, comme je viens de vous dire, en fait, c'est par quoi on commence quand on va faire ce commentaire, il faut parler des circulations. Donc voilà, la chose est faite. Maintenant on peut parler de cette lampe dans laquelle il n'y a pas de lumière. Voilà. Et alors, il y a des parallèles tout à fait nets entre le panneau du paradis originel et le panneau d'enfer. Alors, on dit oui, c'est l'enfer, mais de quel enfer il s'agit? On dit il faut préciser. Alors, cet enfer, ça montre d'abord le monde contemporain. Et encore. Le panneau central, ça montre aussi le monde contemporain, vécu par les membres du libre-esprit. Et le panneau, ça montre le rituel du libre-esprit, vécu dans le temps. Ça montre l'éternité, et l'éternité dont commencent à jouir les membres du libre-esprit. Ils anticipent l'éternité. Ils se préparent à vivre, ils vivent déjà ce qui est propre à l'éternité dans le temps présent, pour s'y habituer, c'est ce que dit Saint-Irénée au sujet du royaume millénaire. On est bien dans le royaume millénaire de Jérôme Bosch, le titre de Frankenguerre est parfaitement exact. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques, au point de méconnaître les dispositions de Dieu et le mystère de la résurrection des justes et du royaume qui sera le prélude de l'incorruptibilité, royaume par lequel ceux qui auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscité à la suite de l'apparition du Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu, au Père, et y régner. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Je recherche rapidement dans mes archives ce texte. Il y a d'autres endroits, je crois, où il parle du royaume millénaire. Alors évidemment, dans ce qu'on vient de lire, il faut l'interpréter d'une manière spirituelle. L'apparition du Seigneur, la résurrection du juste, le monde rénové. Il faut comprendre tout ça de manière spirituelle, pas d'une manière matérielle, parce que, effectivement, si les membres des libres esprits pensent appartenir au royaume millénaire, ils savent très bien qu'eux-mêmes ne sont pas des justes ressuscités, matériellement. Ils voient très bien que le monde dans lequel ils sont plongés n'est pas du tout rénové, matériellement. Quant à l'apparition du Seigneur, ils ont bien remarqué qu'ils n'ont pas vu matériellement le Seigneur apparaître. Donc, toutes ces... Et pourtant, ils croient appartenir au royaume millénaire, et moi je crois que j'appartiens au royaume millénaire, et que si même eux, ils l'ont anticipé, le royaume millénaire a aujourd'hui commencé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est apparu, les justes sont ressuscités, le monde est rénové. Et tout ça, il faut l'interpréter de manière spirituelle, évidemment. Je pense que je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Juste vous dire que l'apparition du Seigneur, c'est moi. Alors pour ceux qui me disent que je me prends pour Dieu, mais tu vois, il se prend pour Dieu. Non, je me prends pour l'apparition du Seigneur, comme le représentant de Dieu sur la terre. Le monde est rénové. En tout cas, l'Église. Elle est renouvelée, ça c'est sûr. Le monde entier est rénové parce que même les anciennes croyances se sont envolées. Les gens qui pensaient qu'il pouvait y avoir d'autres religions véritables que la religion catholique. Bon, il y a quand même des gens qui font exprès de, dans une conscience superficielle, en public, à continuer à proclamer les fausses religions, à dire qu'ils y croient, mais plus personne ne croit aux fausses religions. Tout le monde sait bien qu'il n'y a que la religion catholique qui est la vraie. Donc, en ça, il y a un renouvellement, une rénovation du monde. Quant au juste et ressuscité, eh bien, c'est tout simplement les justes ressuscitent aujourd'hui quand les chrétiens d'aujourd'hui peuvent vivre ce que les saints auraient voulu vivre et ne l'ont pas pu. Et c'est d'abord Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, elle a désiré vivre la jouissance et elle n'a jamais pu le faire. Et quand aujourd'hui on jouit comme Thérèse aurait voulu jouir, on jouit selon le désir de Thérèse, selon la volonté de Thérèse, en suivant même les directives de Thérèse, en suivant ses commandements, en suivant ses inspirations, quand nous vivons à la manière de Thérèse, comme Thérèse aurait voulu vivre et n'a pas pu vivre aujourd'hui, eh bien c'est comme ça qu'elle ressuscite. Voilà, c'est comme ça qu'on interprète spirituellement le texte qu'on vient de lire. Les membres du Christ, le royaume millénaire en est entré aujourd'hui, hein, depuis, moi, pour moi, la date, c'est ça correspond à la démission de l'antéchrist Benoît XVI et à ma sortie de l'hôpital psychiatrique. Pour moi, c'est la date du début du royaume millénaire. Mais au Moyen-Âge, il y en avait déjà qui avaient commencé à vivre ce qui était propre au royaume millénaire. Ça, on le voit dans le tableau central. Donc, dans le tableau central, on voit des choses qui se passent dans le temps présent. D'ailleurs, il y a toute une partie, on vient d'expliquer, avec la sexualité solitaire, la sexualité au couple et la sexualité pensée, qui sont des choses qui sont vécues dans le temps. Donc dans le panneau central, on a des choses qui sont vécues dans le temps et on voit des choses qui sont vécues dans l'éternité. Dans le panneau de l'enfer, on voit beaucoup des choses qui sont vécues dans le temps, mais c'est aussi un enfer. Et une des preuves, c'est qu'on a un motif qui est propre à l'enfer, comme on vient de lire dans le psaume 62. Ipsi vero in vanum quesiunt anima meam, introibunt in feora terre. Ils entreront dans les entrailles de la terre au futur, dans l'éternité. On voit ce motif-là de l'homme qui est dévoré par des renards fantastiques et celui qui est percé par un glaive. Ce sont des motifs qui prouvent que on voit le paradis éternel dans le panneau de l'enfer, dans le panneau de droite. Mais on voit aussi beaucoup, 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 beaucoup le temps entre l'origine et la fin du monde, le temps présent. Le temps, comme on dit, avant l'éternité. On voit l'éternité de l'enfer et on voit le temps, et on voit les gens qui sont déjà en enfer dans le temps présent. Et dans ce panneau de l'enfer, on voit aussi les membres du libre-esprit. On voit les membres du libre-esprit. Ça, j'ai découvert ça en lisant un commentaire excellent sur Internet qui va vraiment, vraiment pour moi être extrêmement important, parce que si j'avais pas lu ça, il y a quand même un élément très très important que je ne savais pas et que j'ai découvert en lisant ce commentaire sur Internet que je ne lu pas ailleurs. Dans le panneau de l'enfer, on voit les membres du libre-esprit. Alors on les voit du libre-esprit en train de souffrir, en train de persécuter, et les membres du libre-esprit, dans le temps, on voit les membres du libre-esprit persécutés dans le temps, en train de souffrir, en train d'être torturés, en train d'être mis à mort. Et dans le panneau central, on voit ces mêmes membres du libre-esprit en train de jouir, d'être dans le bonheur et de pratiquer leur rituel. Alors, je disais, il y a des parallèles entre la droite et la gauche. Souvent, dans les tableaux de Bosch, il fait très souvent ça. Hein. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'artistes qui le font, mais alors lui, chez Bosch, c'est quasiment systématique. Hein. Il y a des objets qu'on trouve à droite, et à gauche, on retrouve d'autres objets qui leur correspondent. Alors quoi? Donner un exemple, eh bien, on a dans le paradis originel le rocher tête d'homme, et juste en face, après quasiment la même hauteur, on a la tête de mort de cheval. Bon, j'ai pris l'exemple, en fait, l'exemple le plus évident. Après, je pourrais en citer beaucoup d'autres qui sont moins évidents. Donc, je ne vais pas en citer d'autres, je vais aller au sujet qui m'intéresse là. Cette histoire de lampe dans laquelle il n'y a pas de lumière. Alors, la correspondance. Donc, il y a la tête de mort et la tête rocher. Sous la tête de mort, sous la mâchoire exactement, c'est-à-dire à l'endroit où on parle, il y a une cloche. Et à l'endroit où il y a une parle, sur la tête rocher, il y a un serpent. Alors, le serpent sur la bouche, c'est le serpent qui parle. On connaît bien ça, hein. C'est bien connu dans la Genèse, un serpent qui parle. C'est cette parole qui est prononcée par cette tête rocher. La correspondance, c'est la cloche qui est prononcée par la tête de mort. Ensuite, au-dessus de la tête de mort, il y a un serpent enroulé autour de l'arbre de la connaissance et qui descend vers le creux, c'est-à-dire vers l'oreille. Il y a un serpent qui est tout à fait libre d'aller vers l'oreille. Et S comme serpent, de toute façon, la lettre S elle-même dessine le serpent. Et puis, il se trouve qu'en latin, c'est bien ça qui se passe. La première lettre du serpent, c'est un S. Donc là, on a un serpent libre qui se dirige vers l'entrée de l'oreille. C'est-à-dire qui est capable d'atteindre son but. Et de l'autre côté, on a une clé en forme de S, comme serpent, qui est suspendue et qui est coincée avec un homme qui est prisonnier dans cette clé, qui ne peut pas bouger. Donc d'un côté, on a le serpent qui est libre d'aller là où il veut, et de l'autre, on a la clé qui est prisonnière, qui est rendue immobile. Donc, on a la tête rocher qui correspond à la tête de mort, on a la cloche qui correspond au serpent sur la bouche, on a la clé en S5 qui correspond au serpent qui descend. Après, il y a l'arbre, la connaissance, et il y a la flèche, la tige sur laquelle est attachée la clé qui n'est coincée. Alors que dans l'autre, sur l'arbre de la connaissance, c'est une tige que suit le serpent et à laquelle qui ne l'empêche pas de. C'est même une tige qui lui sert de chemin pour aller là où il veut aller, alors que l'autre tige, c'est une tige qui le rend prisonnier. Bon, les correspondances tout à fait exactes. Alors ensuite, la tête rocher, elle est en face de la sculpture centrale. Et dans l'enfer, la tête de mort, elle est en face de l'homme taverne. Et la tête rocher, elle n'est pas tout à fait en face parce que, enfin, elle se tourne quand même vers l'ouverture de la du rond central où il y a la chouette. Et là, il se tourne vers l'ouverture de la taverne. Alors on pourrait penser, eh bien, c'est vrai, il y a une correspondance. La taverne, l'homme taverne occupe la place que la sculpture centrale, que la sculpture, que correspond à la sculpture centrale du paradis originel. Alors, matériellement, oui. Visuellement, oui. Mais logiquement, non. C'est ça que j'ai découvert aujourd'hui, avec cette histoire de lampe. Parce que la correspondance, la chouette, enfin l'ouverture, le rond central dans le paradis, de paradis originel, sa correspondance, c'est la lampe. Pourquoi? Parce que ce rond, c'est le sexe de la femme. Au milieu, il y a la chouette qui est capable de voir dans le noir. La chouette, c'est l'image de la vision, c'est l'image de la lumière, même si c'est un oiseau de nuit, mais c'est une image de la lumière. Pourquoi? C'est un animal qui a une capacité visuelle, d'ailleurs il a besoin de ça pour vivre la nuit d'ailleurs, qui a une très haute capacité visuelle, donc c'est une image de la lumière et de la connaissance et de la sagesse. La chouette est une image de la sagesse. J'avais oublié ça, c'est Spranger qui me l'a rappelé. Donc, ce qui signifie, c'est ça, c'est une vérité propre au libre-esprit, et c'est la vérité, que dans le sexe de la femme, on trouve la connaissance et on trouve la lumière. Et c'est pour ça que dans l'enfer, on a une lampe et ce qui correspond à ce trou lumineux, c'est ce trou éteint. Donc la lampe éteinte correspond au sexe de la femme qui donne la connaissance dans le paradis. Dans le paradis originel. Donc vous voyez que logiquement, ce qui correspond au rond central, c'est pas l'homme taverne, c'est la lampe éteinte. Alors que visuellement, effectivement, on voit en plein milieu du paradis originel la grande sculpture, au plein milieu de l'enfer, l'homme taverne. Alors visuellement, c'est l'homme taverne correspond à la sculpture du paradis originel, mais logiquement, c'est la lampe éteinte qui correspond à la sculpture du paradis originel. Et alors, justement, entre ces deux objets, entre la tête, entre le nez et le trou, entre le nez et le trou, c'est bien ça, on a un nez et un trou dans l'origine, à l'origine, on a un nez et un trou dans le paradis, dans l'enfer. On a un nez et un trou dans le paradis originel et un nez et un trou qui sont en face sans rien. Voilà, je vais expliquer. Et dans l'enfer, on a un nez et un trou et entre le nez et le trou, il y a un truc énorme qui vient s'imposer, interposer entre les deux. Eh bien, c'est ce qui fait ce qui produit l'enfer. Le paradis, c'est quand il n'y a pas d'obstacle entre le nez et le trou. L'enfer, c'est quand un obstacle est posé entre le nez et le trou. La lampe est éteinte parce que le nez ne peut pas, parce que la tête ne peut pas aller vers elle. Voilà, voilà, la connaissance est vécue à l'intérieur de la sexualité et le bonheur, la connaissance de la vérité, la vie éternelle et la vérité, c'est la même chose, dit Jésus-Christ. La vérité, on la trouve dans le sexe. Et s'il y a quelque chose qui vient s'opposer dans le sexe, on est en enfer. Et c'est ce que raconte cet enfer du tableau. Et je pense que c'est la deuxième chose qu'il faut dire. Là, vraiment, on a fait des progrès parce que on sait maintenant comment, dans quel ordre il faut expliquer les choses. La première, c'est les circulations. La deuxième, c'est l'idée fondamentale et qu'on retrouve souvent chez Bosch. Le paradis, c'est quand il n'y a pas d'obstacle entre le phallus et le vagin, quand la sexualité est vécue. L'enfer, c'est quand il y a un obstacle dans la sexualité. Et alors, quelque chose qui est vraiment, qu'on retrouve très souvent, alors là, vraiment, tout le temps chez Bosch, et même certainement avant qu'il fasse partie du libre-esprit, une chose qu'il déteste au plus haut point, c'est justement. Alors, quel est cet objet qui vient s'interposer entre la tête et le trou, entre la tête et la lampe éteinte? Parce que la lampe, elle va s'allumer. Le vagin va s'allumer si jamais le phallus rentre en lui. Autrement, il n'y a pas. Le sexe de la femme, c'est le moyen de la connaissance, mais ce n'est qu'un moyen. Pour que la connaissance soit vécue, il faut qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait activité sexuelle. Alors, qu'est-ce qui empêche l'activité sexuelle? Alors évidemment, ouais, comprenez bien ce qu'on veut dire, hein. Justement, on a dit la correspondance matérielle, il y a une correspondance matérielle, il y a une correspondance logique, il y a une correspondance spirituelle. Il ne suffit pas de baiser pour en voir la connaissance. C'est pas ça qu'on dit. C'est dans la sexualité qu'on trouve la connaissance. Mais encore faut-il. Quand il y a sexualité, et d'ailleurs, il n'y a que dans la sexualité qu'on trouve la connaissance. Et tu vas dire, mais alors les gens qui sont célibataires, comment ils font? Et les moines, ils sont tous damnés alors? Et les moines-là sont tous damnés? Non, mais la sexualité, comme on le voit dans les trois sexualités possibles qui sont montrées dans. Enfin, pas les trois sexualités possibles, enfin, les trois sexualités qui sont vécues ordinairement dans la vie terrestre, il y a la sexualité solitaire, la sexualité en couple et la sexualité pensée. La sexualité pensée, c'est une sexualité. Le plus important, ce n'est pas tellement de pratiquer l'activité sexuelle. C'est la sexualité qui nous fait entrer dans la connaissance. Qu'on la vive physiquement, tout seul, à deux, ou juste en pensant, ou à plusieurs, c'est toujours la sexualité qui nous fait entrer dans la connaissance. Mais ce n'est pas parce qu'on la pratique qu'on acquiert forcément la connaissance. Pourquoi? Ben, alors là, c'est un motif qui est énorme, qu'on voit très visiblement dans l'enfer, c'est les oreilles coupées. Encore faut-il entendre ce que la sexualité dit. Parce que si on pratique la sexualité et qu'on ferme les oreilles, ben, on n'acquérera pas la sagesse. Et, en fait, qu'est-ce qui vient s'opposer à une sexualité véritable? C'est-à-dire une sexualité qui atteint son but. La sexualité a pour but la connaissance. Si jamais on pratique une sexualité qui n'aboutit pas à la connaissance, ce n'est pas la sexualité véritable. C'est une sexualité manquée. Finalement, c'est une sexualité dans laquelle il n'y a pas de rencontre avec la connaissance. Il y a peut-être une rencontre. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une rencontre. Il y a une sorte de coït, oui, deux choses qui vont ensemble, mais matérielles, mais il n'y a pas de rencontre réelle qui produit la connaissance. Il y a un obstacle. Et cet obstacle, alors ça, c'est très souvent chez Bosch. Quel est l'obstacle? Quelle est la chose que Bosch déteste au plus haut point? Qu'il abhorre, ça le dégoûte. Il y a un truc qu'il déteste au plus haut point. Mais alors vraiment qu'il déteste et qu'il déteste et qu'il déteste, et je veux dire dans le paradis de l'enfer, dans le paradis de l'enfer, qu'est-ce que je raconte? Dans le panneau de l'enfer, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. D'abord, c'est en plein milieu. Alors, c'est la cornemuse, c'est la danse et la cornemuse. Et moi, je peux vous dire que quand j'étais étudiant à Angers, j'ai participé à des fest-noz au son de la cornemuse et de la bombarde. Et ben, je pense. Oh, vous pouvez imaginer, il n'y a pas besoin d'avoir participé à ce genre de folie pour savoir ce que c'est. On imagine assez, mais je peux vous dire, un jour, je me souviens, c'était même dans un bar. On avait la bombarde quasiment sous l'oreille. Moi, je suis rentré chez moi, j'étais quasiment sourd. Ça fait un bruit épouvantable. C'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans les boîtes de nuit, d'ailleurs, moi, j'y vais pas. On a la sono, on peut mettre le son à fond. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas besoin de la sono pour mettre le son à fond. Ils avaient inventé des instruments de musique qui faisaient un vacarme assourdissant, qui n'avait rien de moindre que au volume sonore qu'on peut trouver dans les boîtes de nuit d'aujourd'hui. La même horreur n'a pas changé. Bon, juste quelques détails techniques, c'est plus tout à fait les mêmes instruments, mais c'est la même horreur qu'on trouve aujourd'hui, hein. On va dire, regardez-moi ça, c'est la boîte de nuit, hein. Le divertissement avec la musique profane, criarde, la danse et la taverne, les gens ils vont boire. Le divertissement. Le divertissement. Eh bien justement, le divertissement, divertir, ça veut dire conduire dans des endroits divers, justement, divers. Conduire ça et là, un peu n'importe où. Éloigné du centre. Divertir, c'est s'éloigner du centre. Aller dans toutes les directions. Et finalement, c'est la divertissement, c'est s'éloigner de la seule chose qui est importante. Et donc, c'est ça qu'on voit, c'est ça l'idée principale qu'on voit dans cet enfer, ou même dans tout le jardin des délices. La chose la plus importante, c'est d'acquérir la sexualité à l'intérieur de la connaissance. Pardon, d'acquérir la connaissance par la sexualité. Et il y a une chose qui vient s'opposer à l'acquisition de la connaissance et à la rencontre sexuelle, à l'illumination, c'est cette satanée, satanique, cette satanique musique profane, ces sataniques bars, ces sataniques divertissements, ces sataniques boîtes de nuit, ces sataniques bals, ces sataniques instruments de musique. Voilà. Donc, faire une correspondance avec aujourd'hui, on peut dire, bah, tous les jeunes gens ou moins jeunes qui vont dans les boîtes de nuit pour rencontrer une femme, pour avoir des aventures amoureuses, eh bien, ils vont dans un lieu qui s'opposera, quand ils vont peut-être là pour, dans le but d'avoir une activité sexuelle, il y a un comique assez vulgaire qui le dit, hein. Mais moi je viens pour ça. Ah non, 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 c'est un autre comique. Enfin, j'ai deux comiques qui parlent de ça, oui. Oui, non, non, ils disent les deux mêmes choses. Mais d'ailleurs, faudra citer les passages. Les deux comiques disent ça. Ils vont dans les boîtes de nuit pour pratiquer la sexualité. Mais c'est alors que c'est exactement ces endroits-là où on ne peut pas la pratiquer.
Hier soir, je suis allée au New Pimm's, un beau jour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket de fluo, tu
Oui,
vois.
alors.
Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire.
Où ça?
Au New Pimm's.
Mais ils sont graves, les mecs là-bas, ils vont en boîte que pour draguer.
Mais moi aussi.
Ouais, mais enfin, les mecs là-bas, c'est du genre, ils te draguent que pour ta poitrine, tu
ah
vois.
Oui,
bah oui, faut pas te draguer pour tes pieds, hein.
Ouais, mais enfin, il y a un juste milieu. Voilà. C'est vrai, si t'es réfléchi bien. Donc les mecs, c'est ça ou ça?
C'est l'endroit, la boîte de nuit, l'endroit le pire et l'endroit pour pratiquer la sexualité. C'est l'endroit d'ailleurs, c'est même pas sale, c'est l'endroit exactement qui va interdire la pratique de la sexualité. Ils vont pour ça et c'est là, à cet endroit-là, que c'est impossible. C'est là, à cet endroit, qu'ils ne trouveront jamais, qu'ils ne vivront jamais la sexualité. Alors, on me dit, peut-être il y a des gens qui se rencontrent là-dedans, et puis finalement, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont pris le mauvais chemin. C'est difficile de retrouver le bon. Non. Et ça, je pense, c'est quelque chose que Bosch avait compris, même avant de faire partie du libre-esprit. C'est un homme extrêmement amoureux. On le voit souvent, vraiment presque en adoration devant sa femme. Quelqu'un de vraiment très, très, très amoureux. Il a toujours détesté la musique profane parce qu'il a toujours senti que l'amour, c'était quelque chose de précieux. Et que quand on allait faire la fête, on s'éloignait de cette chose qui était importante. Voilà. Parce qu'à la vérité, effectivement, la sexualité, c'est la seule chose intéressante, la seule chose importante, et c'est là qu'on trouve tout. C'est pas la peine d'aller chercher une joie ailleurs. C'est pas la peine d'aller chercher une joie dans la boisson. C'est pas la peine d'aller chercher une joie en rencontrant beaucoup de gens pour parler, quoi. Dans le libre-esprit, on vit une sexualité à plusieurs, mais. C'est pas d'aller discuter, c'est pas aller jouer de la musique, c'est pas d'aller danser. Ça, c'est pas le plaisir. Le plaisir, on le trouve dans la sexualité, mais dans une sexualité qui conduit à la sagesse. Dans une sexualité dans laquelle on va puiser la vérité. Et la vérité qu'on va puiser à l'intérieur de la sexualité, c'est tout le bonheur. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Si on va chercher un autre bonheur en s'agitant, en allant boire, en allant discuter, en faisant de la musique, criarde, on cherche des plaisirs dont on n'a pas besoin, qui sont médiocres et dont on n'a pas besoin quand on arrive à puiser le plaisir à l'acte sexuel. Finalement, les gens qui pratiquent une sexualité qui ne les satisfont pas, parce qu'ils ne Ils ne sont pas à l'écoute de la sagesse qu'ils peuvent trouver à l'intérieur de la sexualité et qui vont leur donner une joie courte. Une joie. Votre joie, une joie parfaite. Mais ils vont chercher autre chose. Voilà. Alors, ce qui occupe la place centrale dans l'enfer et ce qui est vrai, ce qui s'interpose entre le nez et le trou, c'est bien la taverne, la danse et le bal. Mais il y a encore d'autres choses qui occupent les hommes et qui les éloignent de la sexualité. Mais ces autres choses, elles ne sont pas au milieu du panneau central. C'est pas les plus graves, c'est pas les choses les plus importantes qui éloignent les hommes de la connaissance. Pour Bosch, c'est ça. Ce qui est le pire, c'est le divertissement. Le divertissement proprement dit, parce qu'après, c'est-à-dire, non pas proprement dit, le divertissement tel qu'on l'appelle ordinairement, c'est-à-dire la fête, on va faire la fête, la teuf, comme on dit, la danse, le bal, la taverne, les sorties. C'est là vraiment cette chose-là qui s'oppose à la sexualité véritable. Après, il y en a plein d'autres. Alors, il y a la guerre, évidemment, il y a les affaires, il y a l'argent. Il y a le jeu, il y a le sport, hein, les gens qui font du patin à glace. Bon. Et puis, les activités industrielles, le moulin, on voit des moulins, on imagine des forges, des ponts. Des bâtiments construits, le bâtiment, tout ça, tous ces travaux, tous les métiers, toutes les ambitions sont des choses qui éloignent de la rencontre sexuelle, mais c'est pas la chose principale. D'ailleurs, le travail, c'est pas interdit par la religion catholique. Jésus n'a jamais interdit de travailler. Ce qui est grave, c'est vrai que le travail, ça peut détourner de la contemplation. Mais ce qui est grave, c'est que quand on travaille, quand on s'arrête de travailler, et c'est ça ce qu'on appelle le divertissement, même si le travail, c'est, ça peut être lui-même utilisé comme divertissement, le divertissement, c'est ce que l'on fait pour se divertir une fois qu'on arrête de travailler. C'est-à-dire, on a travaillé toute la journée, ah ben qu'est-ce qu'on va faire le soir? Ah ben on va en boîte de nuit. Alors que le travail, c'est pas forcément mauvais, c'est pas obligatoire, hein, parce que Jésus a dit, la seule chose nécessaire, c'est la contemplation. Marthe, tu travailles, c'est bien, mais le plus important, c'est la seule chose nécessaire, c'est la contemplation. Je t'interdis pas de travailler, je te fais juste remarquer que la seule chose nécessaire, c'est de contempler. Je t'interdis pas de travailler. Mais ce qui est vraiment grave, c'est que quand les gens ils travaillent, ils ne sont pas occupés à la contemplation, et une fois qu'ils s'arrêtent de travailler, dans le temps du repos, dans le temps qu'ils pourraient consacrer à la contemplation, eh ben à ce moment-là, quand ils ont du temps libre, le temps libre, ils l'occupent à se divertir par les fêtes, par la musique. Donc, ils n'ont jamais l'occasion de s'occuper de la vraie sexualité qui fait entrer dans la connaissance. Et les membres du libre-esprit, eux, savent que la seule chose importante, c'est la contemplation. Ils savent que la contemplation s'exerce de manière parfaite dans la... En fait, non. Pas. Ils savent, ce que les autres ne savent pas forcément, que la contemplation s'exerce forcément toujours dans la sexualité. Alors ils disent, bah, puisque c'est là que... C'est là qu'on y trouve la vérité, eh bien... Faisons une orgie de vérité. C'est ça les orgies du libre-esprit. Ce sont des orgies de vérité. Gavons-nous de vérité. Pratiquons et pratiquons la sexualité sans entrave. Et c'est là que nous allons trouver la vérité. Donc, autant qu'on peut. Alors, quand on peut faire, on fait. Quand on ne peut pas faire, on peut y penser. Et quand on n'arrive même pas à y faire, même pas à y penser, parce qu'on est dans des états affectifs, on est trop fatigué, ça m'est arrivé ces derniers temps, même pour penser, on attend que le temps passe, jusqu'à ce qu'on soit capable d'y penser, soit que l'occasion nous soit donnée de le pratiquer. Voilà, j'ai fait un... Ça fait une heure que je parle. Alors, j'ai remarqué que mon élocution n'est pas toujours très claire. J'ai un peu du mal. Pourtant, quand j'écris en ce moment, je fais des phrases assez claires. Là, je n'ai pas dû parler de manière tout à fait claire, mais j'espère que vous arrivez à suivre. En tout cas... Une chose est certaine, c'est que dans cet enregistrement, je pense avoir trouvé maintenant l'ordre dans lequel il faut parler du jardin des délices. Il y a des choses qu'il faut dire en premier et qui sont les choses les plus importantes. Après, une fois qu'on a dit l'important, le noyau, les vérités principales, on peut regarder les détails. Parce que par exemple, j'ai même pas parlé d'Adam et Ève. J'ai parlé d'Adam juste un peu, j'ai même pas parlé d'Ève. Pourtant, elle est splendide, elle occupe une grande place. J'ai même pas parlé de Jésus-Christ, j'ai pas parlé de la Vierge Marie, j'ai même pas parlé de Dieu, je crois. J'ai même pas prononcé le nom de Dieu une seule fois. Parce que je me suis contenté de parler de la connaissance. Si j'ai parlé de Jésus-Christ une seule fois parce qu'il disait que c'est la vérité et la vie éternelle, c'est la même chose. Il y a énormément de... Vous voyez, mais... Je pense qu'on a dit vraiment... On a trouvé l'ordre dans lequel parler de cette image. Et même... C'est quelque chose que je découvre en ce moment. quand on fait le commentaire, quand on veut parler d'un sujet, on doit pouvoir, enfin, je veux dire, on doit, la chose est possible de tout dire en quelques mots. Et quand on veut parler de quelque chose, c'est possible en quelques mots de tout dire pour que l'auditeur sache tout sur la chose. Et après, on va pouvoir lui parler encore et encore et encore de la même chose, mais tout ce que l'on va dire après, ça va toujours s'intégrer à l'intérieur de ce qui lui a déjà été dit. Parce qu'on peut faire autre chose, on peut parler à quelqu'un d'un objet, on va lui parler de d'une partie de cet objet, bon, il aura entendu parler de cet objet. Puis plus tard, je vais lui parler d'une autre partie, et cette autre partie, elle va s'ajouter à côté de l'autre, à côté d'autre, à côté d'autre. Et au bout d'un moment, il finira par avoir une image de l'objet plus grande, plus complète, au fur et à mesure qu'on lui fait un enseignement sur le même sujet. Et bien ça, c'est un enseignement qui est très imparfait. L'enseignement parfait, c'est quand on arrive à lui donner la totalité, tout de suite. Et ensuite, on va rajouter à l'intérieur de cette totalité des éléments qui vont venir à l'intérieur et pas à côté. Il ne va pas avoir un agrandissement. À chaque fois, on a déjà donné toute la surface et à chaque fois, on va ajouter des éléments, même pas ajouter, on va faire entrer des éléments à l'intérieur de ce qui lui a été déjà donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a dit, quand on a vraiment donné la bonne explication, la bonne instruction au sujet d'un objet, ensuite, quand on en parle à nouveau et qu'on va dire des choses qu'on n'avait pas dites, l'auditeur ne saura rien de nouveau. Il ne finira par... Qu'est-ce qui lui arrivera? Il ne s'occupera que de regarder ce qu'il sait déjà. Voilà. Par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Je viens vous le dire, la connaissance se trouve dans la sexualité. On a, dans le tableau, on a Jésus-Christ qui est encore un index qui est pointé et qui dit à un homme, va dans le pays que je te montrerai. Mais c'est Jésus qui dit ça. Jésus, celui qui est venu apporter la vérité. Va dans la vérité. Va dans la vérité par le moyen de la sexualité. C'est ça. Donc, vous voyez, un petit détail. Si je vous dis, ben voilà, là, il y a Jésus qui dit à un homme, va dans la connaissance de la vérité par le chemin de la sexualité. Ben, vous voyez ce que je... Là, jusqu'à présent, je ne vais pas parler de Jésus-Christ qui disait ça à quelqu'un. Mais si maintenant que je vous le dis, je vous apprends rien de nouveau. Ce que je viens de vous dire là-bas, ça s'intègre à l'intérieur de ce que je vous ai déjà dit. Vous savez déjà tout. Voilà. On pourrait dire encore, la vie éternelle, c'est la vérité. La vérité, on la trouve dans la sexualité. Marie, c'est une pute qui est placée au milieu du paradis. Il y a quelqu'un qui vient lui demander ses services. Eh bien, je vais puiser à l'intérieur de toi la vérité qui se trouve à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a Jésus qui est la vérité. Viens, chère pute céleste, je vais puiser en toi la vérité. En s'unissant à Marie, comment est-ce qu'on trouve la vérité en Marie? En s'unissant à elle sexuellement. Je ne vous ai rien dit de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on est guéri quand on est maladif? Maladif, ça veut dire on est malade quand il nous manque de la vie. Comment est-ce qu'on va nourrir les gens qui sont maladifs? Eh bien, en les invitant à la connaissance de la sexualité. Je ne vous ai rien dit de nouveau. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé l'ordre. L'expression, elle est peut-être pas excellente. Mais je pense que surtout maintenant, qu'on a des images en très haute définition, ce que je n'avais pas à l'époque. J'avais fait les premiers commentaires jumbo, je m'étais contenté à scanner des livres, à chercher des images et des gros plans par-ci, par-là. Là, maintenant, j'ai la totalité. J'ai trouvé, c'est sur Wikipédia, j'ai trouvé ça, hein, tout simplement. Maintenant, c'était pas disponible au moment où on avait commencé en 2011, il n'y avait pas ça. Ou alors, ça y était peut-être déjà. Non, mais il y a plein de choses qui sont apparues entre-temps. Par exemple, Closer to Van Eyck, un site internet qui présente un grand nombre de Van Eyck en très haute définition. Bon, ben ça, au début, j'avais pas ça. Donc maintenant, on a tout le. On n'a pas le panneau fermé en très haute définition. Mais tout l'intérieur, on l'a en très haute définition. Donc maintenant, ça va être facile de faire un montage vidéo. On va pouvoir, clac, photographier des endroits à partir de l'image très haute définition et les mettre. Alors, je ne sais pas encore faire les déplacements là, en vidéo. J'ai pas trouvé le programme pour faire ça, mais tant pis. On fera sans glissement. On fera les images les unes, tac, tac, les unes après les autres. Ce sera bien de pouvoir faire le glissement, mais j'ai pas. Je sais, ça se trouve, c'est pas un. C'est ça. Alors, tiens, je pourrais peut-être poser une question. Il y a la fraise. Les hommes autour de la fraise, qu'est-ce qu'ils font autour de la fraise? Bon, alors la fraise, c'est assez facile à expliquer, c'est le gland. D'ailleurs, je pense que c'est assez courant, hein, parce que ça ressemble tellement que c'est facile à interpréter, ou c'est facile d'avoir l'idée d'utiliser la fraise comme image du gland, tellement c'est ressemblant. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ces hommes, tout ce groupe d'hommes autour de la fraise? Alors, c'est juste à côté, il y a ceux qui vont dans un œuf. Alors déjà, on a un début de réponse. L'œuf, évidemment, c'est le ventre de la femme. La fraise, c'est le phallus. On a deux groupes. Il y a un groupe qui rentre. Il y a un groupe qui est... Donc, les deux éléments vont ensemble. Il y a les hommes qui rentrent dans l'œuf, qui sortent de la mare, qui sortent de l'origine et qui retournent à l'origine. Mais pas au même endroit, d'ailleurs. Ils sortent d'une origine aquatique, ils vont dans un œuf terrestre. Et il y a ceux qui, sur la Terre, sont autour du phallus, du gland, exactement. Alors, qu'est-ce qu'ils font autour de ce gland? Ils ont l'impression, non seulement ils sont autour de lui, mais ils le portent. Alors que les autres, rentrent à l'intérieur, eux portent le gland. Alors, bah, il faut quelques notions de sexualité. Ceux qui rentrent dedans, bah, ils rentrent dans le vagin. Et ceux qui sont autour du gland, qu'est-ce qu'ils font? Pas la bite, ils lèchent le gland. On pourrait dire que ce sont des lèches-culs, on dit en français. Bon, ce n'est pas tout à fait des lèches-culs, c'est des lèches-glands. On peut penser qu'il y en a ceux qui rentrent dedans, il y a ceux qui lèchent. Puisque, effectivement, c'est tout à fait cohérent, puisque le gland est au niveau de leur visage. Alors, je pense qu'on a trouvé l'interprétation. Ce sont les deux, c'est un résumé des deux activités que l'on trouve dans le Jardin des Délices, hein, dans le panneau central, les deux activités du paradis, qui sont la pratique sexuelle ou la louange charnelle et la louange orale, si j'ose dire. Ben oui, puisque là, ils sont en train de faire une sexualité orale. Il y a ceux qui sont en train de faire génital, ils rentrent à l'intérieur du ventre. On va dire la tête la première, non, mais ils rentrent à l'intérieur. Quand on va une sexualité orale, même sur la femme, on rentre. Non. Difficile de rentrer à l'intérieur avec la langue, hein. Bon, on reste quand même à l'extérieur. Non, là, il rentre à l'intérieur. Sexualité génitale. Sexualité orale. Oui, d'accord, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas tellement ça. C'est plutôt louange charnelle et louange spirituelle. Quand ils lèchent, ils font du lèche-cul. Comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire lécher, faire du lèche-cul? Ça veut dire bassement proclamer la louange de quelqu'un. Bon, là, c'est du lèche-bite. La bite, c'est Jésus-Christ. Ce sont des gens. Ceux-là, ils sont en train de pratiquer la louange orale. Et les autres, ils sont en train de pratiquer la sexualité charnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait au paradis? On baise et on proclame la louange de celui qui nous a donné l'occasion, qui nous a donné de baiser. C'est les deux activités du paradis qui sont là. Ils sont unis en un seul tout pour pratiquer la louange, les uns comme les autres, hein, parce qu'ils forment des groupes compacts. C'est pour ça qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi tous serrés les uns sur les autres, à tel point ils pourraient être autour de la fraise. Mais si c'était autour de la fraise, ils ne formeraient pas un tout compact, ils formeraient un cercle. Un cercle, ce n'est pas compact. Un rond, c'est compact. Et là, c'est ce qui se passe, c'est un rond. Le rond, un tout compact, parce qu'ils sont unis en une seule chose. Et Tchekouam Bonoum, comme Yukunoum, Avitar et Fratres Yunoum, comme il est bon et comme il est heureux d'habiter tous ensemble et d'être une seule chose, Inunoum, d'habiter en étant une seule chose, c'est ce qu'ils font. Alors, habiter en étant une seule chose, c'est monter, c'est peut-être rentrer à l'intérieur de l'œuf. Mais dans un monastère, on est tous ensemble et on chante la louange de Dieu d'une voix unanime. On chante de la Dieu d'une voix unanime. C'est ça qu'on dit, cantate nomino. Laus eius in ecclesia sanctorum. Cantate nomino canticum novum. Laus eius in ecclesia sanctorum. Sa louange est dans l'église des saints, dans l'assemblée des saints. Voilà, on a laus, la louange à l'assemblée, dans l'église. Un tout compact qui est en train de proclamer la louange de Dieu. C'est-à-dire qu'ils font, qu'ils procurent à Jésus-Christ, qui est le gland, qui est une bite, la louange au moyen de leurs lèvres. On a une image de la fellation. Mais évidemment, l'image de la fellation, même si c'est une activité matérielle, physique, elle est quand même symbolique de la parole. Je donne un plaisir par le moyen de la langue, par le moyen de la parole. Donc c'est ça que ces deux images sont en train d'entrer. On a donné l'explication exacte. Là encore, c'est peut-être pas tout à fait bien exprimé, mais l'idée est quand même assez claire et elle est exacte. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on a tout dit. On fait des progrès, hein. Vraiment, on fait des grands progrès. Alors maintenant, on attend un miracle, hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Je me souviens, je vais vous le rappeler, mais ça, c'est, franchement, c'est quelque chose que je peux dire d'autant plus facilement que je l'ai écrit, je pense que je l'ai enregistré. Donc, j'ai des moyens matériels de prouver que ce n'est pas une idée que je suis en train de m'inventer maintenant. Parce que souvent, dans les souvenirs, on mélange les choses, on se trompe. Voilà. On invente des choses qu'on a vécues dans le passé, qu'on n'a pas vécues. Bon, pas toujours, hein. Et là... Je pourrais chercher où ça se trouve. Mais non, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quand j'étais en train de faire le commentaire de... Quand j'avais essayé de commencer les noces de Cana, après avoir fait le jardin des listes, c'était au printemps 2011. J'embauche. J'avais reçu l'intuition dans mon cœur que j'embauche, me disait, tu seras heureux avec ta chérie. Oui, parce que j'ai dit, dans le... Dans Libre-Esprit, on pratique la sexualité de groupe, oui, mais ça n'empêche, ça n'interdit pas d'avoir un partenaire privilégié, ni même, on ne sait pas, pendant un certain temps, de rester. Je suis resté tout seul pendant des années, peut-être que si je trouve une chérie, on va rester tous les deux pendant des années avant d'avoir d'autres. avant d'avoir des disciples, tout simplement. Je sais pas. En tout cas, c'est ça qu'il m'avait dit. Tu seras heureux avec ta chérie. Quand j'étais en train de j'ai commencé maintenant, parce qu'à l'époque, de faire le commentaire des noces de Cana. Et finalement, terre d'une mariage. Et finalement, ce commentaire que j'avais commencé en 2011, eh bien, je l'ai fini il y a quelques semaines, 8 ans plus tard. Et comme Bosch m'avait dit, pendant que j'avais commencé, tu seras heureux, je me dis, mais puisque maintenant que j'ai fini cette chose que j'avais... Pendant que j'étais en train de commencer ce commentaire, d'ailleurs, c'est fait, j'avais juste commencé, puis après je l'ai laissé sans m'en occuper pendant 8 ans. Et finalement, 8 ans plus tard, je finis ce commentaire, où je le possède, j'avais essayé de l'avoir, je ne l'avais pas eu. Maintenant que j'ai ce commentaire, eh bien, il m'avait dit, tu seras heureux. Mais maintenant que le travail est terminé, c'est maintenant. Tu vas trouver ta chérie parce que tu as fini le commentaire des noces de Cana. Voilà. Et là, au moment où je vous parle, je ne sais pas où est-ce qu'elle est ma lettre, parce que... Il y a une lettre que j'ai envoyée. Enfin, c'est une lettre que j'ai envoyée, mais je lui dis, hein. Est-ce que tu veux que je t'envoie un recueil Elle m'a dit oui. Elle m'a pas dit oui, elle m'a dit avec plaisir. Ça pourrait être un moyen de se foutre de ma gueule, hein, tout évidemment. Mais il y a bien un jour où ça s'arrêtera. Il y a bien un jour où les filles... Il y a bien un jour où une fille me dira avec plaisir, pas pour se foutre de ma gueule, mais... Sincèrement, ça arrivera un jour. Si ça arrivera sur la terre, ça arrivera un jour au paradis. Ça arrivera un jour, alors peut-être que ce jour est déjà arrivé. Voilà. Et de l'autre côté, juste en face de ceux qui rentrent dans l'œuf, il y a des hommes qui s'approchent de quelqu'un qui est agenouillé sur le bord de la rivière devant une planche à laver, une washboard, comme on dit en jazz. Une washboard. Ce qui signifie que le libre-esprit, c'est une purification. La sexualité vécue sainement, c'est une purification de l'âme. Et du corps, de tout, une purification de l'homme. Ce qui correspond à la fraise, c'est la flèche. La flamme. Les hommes qui s'élèvent en flamme pour se saisir d'une boule rouge qui est transpercée au bout du bec d'un oiseau. Corps des correspondances. Il y en a partout chez moi. C'est tout le temps d'un côté des objets qui se correspondent l'un à l'autre. À droite et à gauche par rapport à un axe central, c'est chez Bosch, c'est tout le temps ça, c'est systématique. Alors même dans le rond central, la mare centrale, à gauche il y a une femme noire, à droite il y a une femme blanche. Puis il y en a une qui est assise sur bord, il y en a une qui sort, il y en a une qui a le cul posé par terre, il y en a une qui a le cul en l'air, enfin, toujours des correspondances, soit en opposition, soit identique. Sans cesse. C'est un procédé systématique chez Bosch. Les correspondances par rapport à un axe central, un axe de symétrie. Voilà. Ou tout simplement Jésus-Christ qui a un axe de symétrie entre Adam et Ève. À dire que l'homme, le miroir de l'homme, c'est la femme, le miroir de la femme, c'est l'homme. Ils voient une image inversée d'eux-mêmes. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.